Le petit guide du balado.
Oh!
Non.
Hein?
Le petit guide du podcast.
Tu veux faire un statement?
Le petit guide du podcast, 13e épisode. Du petit guide du podcast.
Ça va vite, hein?
Chiffre de malheur, peut-être, non?
Oui.
13, il n'y a pas une superstition, là. C'est peut-être pour ça que j'ai eu la confusion entre balado et podcast.
Ça bon, se peut. On le blâme là-dessus.
On ne pourra pas avoir prétendu régler cette question-là de comment s'appelle ce format-là qui est la radio numérique, ouais, finalement. Ouais. L'écoute de fichiers son sur votre appareil mobile, enfin. Podcast.
C'est pas grave, hein, si on, la façon qu'on l'appelle.
Non, je pense pas.
Pas pour l'instant.
Je pense pas. Puis je pense pas que balado est soudainement devenu bon depuis les 13 dernières semaines. Parce que des fois, on l'écoute en ne se baladant pas.
Non, c'est vrai.
Chose certaine, cette semaine, on parle d'un type de balado qui est, je pense, presque ancré au cœur de ce qu'est la balado en tant que telle, ou en tout cas de l'explosion, la renaissance du format balado depuis quelques années, c'est-à-dire le balado d'enquête. Ouais. Moi, je pense à des séries comme Serial, évidemment, de NPR, qui a
tout commencé, dans le sens que...
Ça a mis les bases, ben non? Ouais. Sur, en tout cas, l'explosion de la popularité du format en tant que tel, de « Ah, OK, on peut se mettre dans nos oreilles une enquête, une série qu'on va suivre de semaine en semaine et qui va faire évoluer quelque chose. Ouais. » Sarah Koenig là-dedans était absolument fascinante, réussissait avec de la mise en récit, avec du storytelling, à nous amener vraiment sur un cas pas trop rapport là, de Anian Syed. C'est quoi, c'était-tu au Maryland? En tout cas,
je me rappelle pas exactement, mais c'était un cas. Ben, en fait, c'était. On revenait sur. Ben là, on va parler de Serial? On en parle
non, un petit peu. Ben, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent ça. En tout cas, si vous avez.
Si vous l'avez pas écouté, arrêtez ça tout de suite, là, puis allez écouter ça.
Si bien sûr, vous écoutez des balados en anglais, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça a un peu mis les bases de ce dont à quoi ressemblait ce genre-là. Et je pense que ça a servi beaucoup à populariser carrément le médium. On n'arrête pas d'en faire référence. Ah, Serial a parti, quelque chose. Ouais. Et ensuite, ça a fait des petits, puis les gens se sont tous dit, ah, ben c'est bien plus accessible que faire un podcast, que faire un documentaire télé. On peut faire un documentaire podcast. Ouais. Et ce format-là, l'enquête, moi, je pense que c'est devenu absolument incontournable. Puis quand on parle de balado au Québec, de balado en français, on pense à quoi? T'sais? Moi, souvent, j'entends Histoire d'enquête disparue, par exemple, à Radio-Canada. Ouais. Qui sont presque des séries phares là, de la société d'État. Ils se sont dit quoi pour commencer leur balado? Oui, OK, il y a des émissions de radio comme Aujourd'hui l'Histoire qui passent en balado, qui sont très bonnes, mais en format pur balado, allons-y pour l'enquête. Moi, je pense que ça a à voir beaucoup avec ce fait que ce format-là, tu sais, qui passait pas à radio, là, tu peux pas... On se téléporte il y a 10 ans, là, t'ouvres la radio, t'es dans ton auto, t'ouvres la radio le matin, t'es au milieu d'une enquête.
Ouais, c'est ça. Non, ça n'a aucun rapport parce que t'as besoin de plus de mise en contexte, t'as besoin de plus qu'un 5 minutes d'entrevue pour avoir quelque chose de plus tangible, d'avoir du bon contenu. Fait évidemment, le balado, il se prête à ça parce que là, si t'en veux 25 minutes, là, bon, ben je t'en donne, puis je te mets en contexte, puis je t'explique pourquoi cette personne-là est disparue ou comment ça se fait que cette personne-là est en prison, puis elle devrait peut-être pas l'être. Fait que le balado, il se porte bien pour ça, puis justement, comme tu le dis, tu l'écoutes un peu n'importe où, n'importe quand le temps, puis un balado d'enquête, évidemment, ben il faut que tu l'écoutes comme du monde. C'est pas un balado d'humour où tu peux peut-être porter attention des fois à d'autres choses. Enquête, bon, ben il faut que tu t'assies.
Faut que tu sois prêt mentalement, ben, presque. Exactement. Je pense à Histoire d'enquête en ce moment à Radio-Canada. C'est super bon d'ailleurs. Anne Panassa qui enquête malade. Sur un enfant autochtone qui est disparu. Parce qu'il est parti à l'hôpital, il n'est jamais revenu. En gros, ils ne savent pas s'il est mort ou s'il est vivant. Donc
ça, c'est le type de l'iceberg.
Ils se rendent compte qu'il y a eu ça au Québec. Ouais. Il y en a eu 6 dans son village de mémoire. Ouais. Et puis après, ils se rendent compte que, OK, mais dans plein de communautés autochtones. Ouais, ouais. Il y a eu des cas d'enfants disparus.
C'est ça. Mais on n'en dit pas plus, disons pas plus. Mais il y a aussi la première saison, hein, où c'est qu'un cas d'une personne, je ne me rappelle pas son nom, mais lui, il dit qu'il est accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc, je ne sais pas Anne qui fait cette
saison. C'est Isabelle Richer de mémoire, hein, ouais, c'est ça, le journaliste de l'émission
c'est
Enquête.
C'est ça. Puis, ouais, fait que c'est ça, fait qu'elle, elle va se pencher sur ce dossier-là, un peu comme Serial.
C'est quand que t'es dans le bon mindset pour écouter une enquête. T'sais, moi, je pense à le matin, tu conduis ton auto. Oui. Non, en tout cas, ça dépend à qui, mais je veux dire, clairement, tu peux pas passer ça, ces ondes hertziennes, mm-hmm. Sans parler que, comme tu dis quoi, ben, lundi prochain, suivez le deuxième épisode, t'arrives le lundi suivant, tous les gens qui n'ont pas écouté le premier, ça a comme pas rapport de passer ça à la radio. C'est donc, vrai. Il fallait que le balado existe oui. pour faire de l'enquête.
Je suis d'accord.
Alors que, tu sais, avant le documentaire, ben, t'es télé, ben, tu t'assoyais pendant une heure sur ton sofa, ce qui est bien, mais des fois, t'as besoin de plus qu'une heure. Mm-hmm. Tu fais quoi avec ça? Ben, bon, en tout cas, moi, je trouve que le balado, vraiment, ça, c'est un format qui permet d'aller creuser des sujets tellement plus profonds. Et là, je trouve qu'on s'est écarté en parlant de plein de balados
ou d'enquêtes.
Mais voilà, c'est le sujet de...
Puis c'est assez grand public aussi, dans le sens que c'est pas niché comme, mettons, un balado de hockey ou de cartes Magic. Ouais. L'enquête, ça convient à tout le monde. C'est intéressant, le mystère, tout ça. Je pense que c'est pour ça aussi, parce que c'est de la balado, mais c'est grand public, fait que ça attire beaucoup de monde, fait que mm-hmm. ça marche.
Ce que je voulais te parler... sujet, disons, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est plus des histoires d'enquête qui sont basées sur aucun crime. Et il y a un article publié cet hiver dans le New Yorker qui est sur la popularité du podcast, évidemment, où on nomme à peu près Serial et à peu près ce qu'on vient de dire, mais qui attribue aussi la popularité du balado d'enquête à un balado en particulier, un très curieux balado, qui creuse une histoire qui n'a rien à voir avec un crime. Ça s'appelle Missing Richard Simmons. Je ne sais pas si tu en as entendu parler,
non,
François.
Non, absolument pas.
C'est produit par un producteur de la célèbre émission Daily Show aux États-Unis. Il s'appelle Dan Taberski. On enquête là-dessus sur Richard Simmons. Là, peut-être une question de génération, mais vous vous en souvenez peut-être si vous avez plus que, je dirais, 30-35 ans. Mm-hmm. Il fait des apparitions dans les Simpsons, cet homme-là. Là. C'est une célébrité du monde de l'entraînement physique dans les années 90, puis qui est quand même super joyeux, super extraverti, vraiment incroyable. Incroyablement, je te dirais... ouais, il était quasiment à l'image là, du monde de l'entraînement physique,
okay.
En tout cas du gym et de cette culture-là, en tout cas. Puis, il a disparu. Et Taberski raconte là-dedans qu'il a commencé à s'entraîner lui-même dans le gym de Richard Simmons, ce qui est assez drôle, mais il disait... C'est un homme qui est super accessible. En fait, n'importe qui pouvait devenir son ami.
Ouais.
Non seulement ça, mais il y a plein de ses fans qui l'appelaient le soir et leur parlaient pendant une heure. Quand il y avait des tours d'Hollywood avec des touristes, ils s'arrêtaient devant la maison de Richard Simmons parce qu'ils savaient que c'était le premier gars qui s'en foutait, qui allait parler à tout le monde puis qui passait super généreux avec n'importe qui rencontrait le premier jour. Mm-hmm. Il y avait comme une espèce de culture autour de ce gars-là.
Okay. Puis, fait que c'est pas normal, dans le fond, que lui, sans le dire à personne, il disparaît d'un shot.
Ben,
c'est pas normal.
T'es proche de tes fans d'un niveau presque malsain.
Ouais.
Du jour au lendemain, plus de nouvelles.
Okay.
Il présente l'enquête comme ça.
And he didn't just stop showing up, he stopped communicating altogether. Before this, he never didn't return an email or text within hours. He would call people when they didn't show up to class just to check on them. When the daughter of one longtime student went to sleepaway camp, Richard would send her letters with cash in them, like your grandma does. Now, none of it. He hasn't been seen in public since.
Like, it didn't make any sense. It was like someone that was so consistent for so long, all of a sudden just stopped showing up. Just like... Something has to be really wrong if you all of a sudden just stop showing up.
He straight up got up and disappeared.
I'm Dan Taberski. 3 years ago to the day, Richard Simmons completely and inexplicably stopped being Richard Simmons. And I want to find out why. He may never talk to me. He may sue me or publicly excoriate me. But honestly, I'm good with all that except for the suing part. Why am I doing this? Because that year I got to know Richard made me even more fascinated than I was when I first proposed that documentary. I think he's important, so much more so than his goofball public persona lets on. And also, because a lot of people who know him and whose lives have been changed by him, they're worried, or angry, or full of grief. Some want to save him. Some just want to know he's okay. So over the course of this series, I'm looking for Richard. I'm reaching out in any way I can and exploring every theory. The goal isn't to drag him back. It's to find out why someone like him would ditch the world. This is Missing Richard Simmons.
C'est mythique, cette musique-là. Je te jure, François, ça me donne la chair de poule.
Ah, mais je te crois, je le vois, là.
Quand t'as écouté la série.
Mais attends, laisse-moi comprendre. Fait que le gars, on le sait qu'il est pas mort.
On sait qu'il est pas mort. Et il s'appuie aussi en disant des sources m'ont dit off the record qu'il n'y a pas d'enjeu de santé mentale. Ça reste ambigu.
Fait qu'il a juste décidé de sacrer son camp du showbiz du jour au lendemain. Mais il n'est pas en danger.
Il n'est pas en danger. Okay. Non seulement ça, on apprend dans la série qu'il est chez eux, qu'il fait juste pas vouloir non seulement participer au projet de podcast, mais parler à n'importe qui, même ses meilleurs amis qu'on interview dans le podcast. Ce qui soulève énormément de critiques au niveau éthique. Parce que, première question, est-ce que c'est d'intérêt public?
Ouais.
Tu dis, bon, s'il veut pas qu'on parle de lui, on fait un balado sur lui. C'est pas très respectueux. Mais attends.
Je suis d'accord.
Puis, dans un sens, il a commis aucun crime. On peut se poser la question, est-ce qu'il doit vraiment quelque chose à quelqu'un, finalement? Est-ce qu'on a le droit à l'oubli? On a le droit de sacrer notre camp et de plus vouloir un moment donné être ça?
Ouais.
Je pense que dans la petite intro qu'on a entendue, il adresse un peu ces critiques-là en termes de dire, moi, je pense qu'il doit des réponses à ceux qui s'inquiètent pour lui. OK, mettons, c'est son hook. Mmh. C'est comme ça qu'il se justifie lui-même.
Okay.
Mais, chose certaine, ça soulève des questions et ça vient jouer sur la ligne de ce qui était jusqu'à aujourd'hui la pudeur journalistique. Ouais. On va pas, on traverse pas cette ligne-là. Si on veut quelqu'un qui veut se faire laisser tranquille, à moins qu'ils doivent quelque chose qui est comme un crime ou quoi que ce soit. En général, on le laisse tranquille. Donc,
ouais, tu verras pas un journaliste aller cogner à la porte de quelqu'un pour savoir comment ça se fait que t'es plus dans le showbiz.
On ferait-tu une enquête sur toi?
Non.
François Larivière, qu'est-il devenu? Pourquoi vous avez fait ça? Non, bon. Et je pense que le balado permet ça, c'est-à-dire être edgy, répondre à une curiosité malsaine d'une partie du public. Ouais. Et si je peux même ajouter une prédiction, moi, je pense que... le balado va peut-être aller vers ça, en termes de repousser les limites de ce qui était autrefois possible à faire en journalisme, en termes de gonzo, en termes de éthique de travail.
Puis ça, c'est-tu un avertissement ou c'est une bonne chose?
Je pense que ça peut aller dans les deux directions.
Okay.
Je pense que ça peut faire des victimes potentielles. Ouais. Moi, je pense que Richard Simmons, clairement, en fait peut-être partie. Bon, qu'on le veuille ou non, là, je veux dire, peut-être qu'il voulait vraiment pas qu'un balado soit fait à son endroit, par exemple. Bon, je dis ça de même. Mais justement, quelle ne fut pas ma surprise et mon emballement, étant donné que, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé Missing Richard Simmons, malgré tout ce que je viens de dire. J'ai été très emballé de savoir que cette semaine, en fait, c'est la semaine dernière.
Ouais.
Ce genre de balado a été annoncé en français, ici au Québec, par le média de Québécois Cube Radio. Et on s'interroge là-dedans, justement, sur la disparition d'une star québécoise des années 90. On voit le parallèle, hein? Julie Masse, la chanteuse de C0, la chanteuse qui a fait ce que peu d'artistes ont réussi à faire, se retirer au sommet de sa gloire.
Ben ouais.
Et ça, c'est, je vous lis un peu la description, là. 5 ans après le début d'une carrière fulgurante, la femme de 25 ans quitte tout pour se réfugier aux Bahamas et fonder une famille avec son amoureux, le chanteur Corey Hart. Ça s'appelle « Pourquoi Julie ?» Point d'interrogation.
Mm-hmm.
C'est une série de 5 épisodes signée par Émilie Perrault, journaliste culturelle qui était auparavant au 98.5 à Montréal, à Paul Arcan. On peut entendre un court extrait de comment ça commence et là, on vous vend aucun punch.
Comment tu vois les choses se développer en ce qui concerne ta carrière quand tu t'imagines là, dans 5 ans, dans 10 ans?
C'est toujours un peu difficile de s'imaginer dans 5 ou 10 ans. Mais effectivement, moi, j'aimerais bien pouvoir encore chanter dans 5 ans, dans 10 ans, et être encore sur scène et faire des télévisions, faire des entrevues, faire de la radio, parce que c'est ce que j'aime faire.
Est-ce que dans ton esprit, c'est compatible avec le fait d'avoir des enfants, de fonder une famille?
Ah oui, tout à fait. Et je sais que bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours aimé les enfants et j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants et je saurais très bien, je suis sûre, concilier les deux.
Moi, ce que j'entends ici, c'est une fille qui est en plein contrôle, une jeune femme ambitieuse, une artiste qui est au sommet de sa gloire. Pourtant, quelques mois plus tard, Julie Masse disparaît. Pourquoi, Julie? Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Masse, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois.
Pourquoi Julie, point d'interrogation, un long extrait là, qui met un peu en contexte cette enquête-là, signée, je le rappelle, Émilie Perrault, produite par Cube Radio. Et ben, il y a deux épisodes en ligne au moment de cet enregistrement, là, sur un total de cinq, où on interview, en tout cas jusqu'à maintenant, le Manuel Tadros, notamment père de Xavier Dolan et auteur de la chanson C0. Il raconte, et ça c'est aussi backé par beaucoup d'experts musicaux québécois, d'universitaires, tout ça, à quel point Julie Masse a véritablement influencé la musique des années 1990. Il y a même là-dedans un métalleux de Laval qui collectionne des articles, on peut en finir sur Julie Masse, c'est comme son plus grand fan numéro un de la vie. Là. très bizarre, mais bon, c'est ce genre d'intervenant avec des gens qui l'ont connu, etc. Bon. Moi, personnellement, je les ai écoutés. Je pense que tu les as écoutés aussi.
Oui, j'ai écouté les deux premiers.
François, je trouve, ben, de prime abord, je trouve que ça promet. Je trouve que c'est
absolument
très intéressant.
Super bon,
Julie Masse, c'est vrai que c'est curieux, mine de rien. Je pense que c'est le fun aussi. Là, je fais une petite parenthèse. Là, c'est le fun parce que ça fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai vu des articles de la presse sur la question. J'ai vu des gens parler de ça. Bon, je pense que à chaque fois qu'on parle comme ça d'un balado, que ça fait le buzz, ben ça amène des gens vers la balado.
Ouais.
Et ça, c'est bon pour l'ensemble du médium, l'ensemble de l'industrie. C'est mon opinion personnelle. Donc, franchement, on ne peut que s'en réjouir qu'un balado comme ça, qui est de ce genre-là, selon moi, quoique j'en sais rien, librement inspiré de Missing Richard Simmons, en tout cas, qui en a les grandes lignes du thème, là, ou en tout cas du concept. Pour le style, je ne sais pas si vous avez entendu la facture, je pense que les adeptes d'enquête immersive vont peut-être trouver que c'est un petit peu moins léché, que c'est un petit peu moins sonorisé que le style imposé jusqu'ici. Des enquêtes, on a peut-être l'habitude à quelque chose comme peut-être encore un petit peu plus travaillé, là, je ne sais pas là, comment le dire, plus réalisé. Quoique, en tout cas, oui, c'est professionnel, mais on repose beaucoup ça sur des interviews, archives, un peu de musique des années 90, et ça fait pas mal l'un à l'autre comme ça. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Peut-être que quelqu'un qui est super fan là, du sonorisé à 100%, va peut-être être un petit peu sur sa fin à ce niveau-là.
Oui, je suis d'accord. Peut-être que ça mérite comment je pourrais dire? J'en veux plus. C'est ça que je veux dire. J'espère que dans les prochains épisodes, il va y avoir un peu plus d'habillage sonore, comme je dis, pour créer l'immersion dans le podcast. Je pense que ça vaut la peine. Mais pour ce qui est de la recherche, puis pour ce qui est de la narration, ça, je trouve ça excellent.
Et la quête d'Émilie Perrault, qui est elle-même fan de Julie Masse, qui se voyait en elle, etc.
C'est ça. Fait que, oui, ça, c'est sûrement un point négatif, mais le podcast vaut quand même la peine d'être écouté.
Puis sur le fond, moi, je pense que ça. On est encore. Et là, je sais pas ce que t'en penses, mais on est encore un petit peu sur la ligne mince, toujours de l'intérêt public, dans le sens.
Puis tu l'entends aussi en discuter avec sa réalisatrice.
Oui, tout à fait. Elle aborde cette question-là. Ce qui est très intéressant, tu sais, on va-tu vraiment la sortir des boulamites, mettons qu'elle veut y rester? Quelle est la légitimité de tout ça, du processus? Donc, moi, je trouve qu'on est en plein là-dedans. Je trouve qu'on est en plein dans les questionnements sur où est-ce que le format, le médium balado peut nous amener. Et je le recommanderais à n'importe qui, ce podcast-là. Donc, disponible sur Cube Radio ou n'importe quelle appli.
Reports of violence erupted today in the research facility known as Blindtown, located in White County, Tennessee, and home to over 300 residents.
Emergency services have gathered to the isolated location as smoke rises from somewhere on the property.
The first time most people heard about Limetown was on the night of February 8th, 2004.
911, what is your emergency? Hello? 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 Are you there?
Hello? Can you hear me?
Yes, ma'am. What is the nature of your emergency?
We need emergency services in Limetown. The ambulance is on. The firemen, police, damages, and the whole army.
Ma'am, I'm going to have to ask you to calm down.
Turn it off. Turn it.
Ma'am? Are you still there?
17 minutes later, the first responders arrived to the outside gate, followed shortly thereafter by local news station WVPK, where they uncovered the troubling reality. No one was allowed access into Limetown.
Je vous propose à toi et aux auditeurs, Boris, une incursion dans l'univers de Limetown, une petite ville fictive au cœur des États-Unis. Je dis fictif, oui, parce que je te parle encore de balado de fiction.
Non!
Hey, oui.
Ben, j'étais sûr.
Moi, il fallait que ça revienne.
Ça y est, là, j'étais sur le gros nerf de savoir ce qui s'était passé à cette femme à Limetown.
Ben, puis, ben, c'est ça, Limetown, hein, c'est une ville qui connaît une histoire tragique. Vous venez de l'entendre, tout commence avec un coup de fil d'une dame hystérique à la police. On l'entend demander l'aide des services d'urgence parce que clairement, quelque chose ne tourne pas rond. Les autorités se rendent sur place pour subiter une barrière, une genre de brigade de sécurité inconnue leur barre le passage. Puis, quelques jours plus tard...
The security at the front gate is now driving away from the facility.
Sir, can you tell me what's happening?
The gate to Limetown was left open. What the world discovered was the complete disappearance of every man, woman, and child in Limetown. 327 people.
Officer, what can you tell us about the investigation? Where is everyone?
Don't make me ask you again.
Nobody's here.
Nobody's here? What do you mean by that?
Everybody's just gone.
On découvre que plus de 300 personnes, en fait la totalité des habitants de Limetown, complètement disparu en un coup de vent. Hein, je pense qu'on est pas mal concept aujourd'hui ensemble, la
vraiment.
Disparition.
Non, mais ça y est, là.
On l'a. Fait que c'est, l'histoire, elle, a fait un cycle de nouvelles, puis après ça, elle disparaît parce qu'on dit qu'on parle de la guerre en Afghanistan qui gruge tout le spotlight. Fait que Limetown disparaît dans l'oubli, on n'en parle plus. Mais il y a une journaliste, elle, Lia Haddock, qui s'intéresse à cette histoire-là parce que son oncle fait partie des disparus. Okay. Elle est déjà journaliste, donc elle se dit « je suis la meilleure personne pour en parler ».
Ça me semble être une grosse histoire, moi. Je parle en tant que journaliste, là, je me dis...
Pour l'affronter toute seule...
Ça m'étonnerait qu'on oublie 350 personnes disparues.
C'est la prémisse. Fait que, mettons, si tu acceptes ça, bon, ben après ça, on est parti. c'est ça, fait qu'à travers ses recherches, elle a fini par rencontrer une survivante qui va expliquer que Limetown a été créé dans le seul et unique but de servir une personne, OK? Une sorte de gourou qui a une certaine capacité extraordinaire, puis ça, je veux pas en révéler trop. Mais la ville est donc pleine de scientifiques qui s'affairent à aider ou à mener à bien les buts d'une seule et unique personne.
Les scientifiques sont tous disparus aussi?
Tout le monde est disparu. Tout le monde est disparu. Okay. Puis ce gang-là de 300 personnes, c'est que des scientifiques.
Ah oui, okay? Ah OK. Pis,
c'est ça, fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe.
Pis, mais ça se passe dans le moment présent. On est dans... autrement, une États-Unis normale qu'on a connue.
C'est ça, exactement. Mais là, Lia Haddock, elle va commencer à déranger avec son enquête.
It is 2:37 in the morning. I'm in my hotel room and woke up to someone banging on the door and shouting my name. I am recording this in case... something happens. I can see through my window what appears to be a man in his 40s slamming his head into my door. Blood is running over his face. I am moving to the door now.
What do you want from me? I see you. What do you want?
C'est chiant, hein?
Non, mais
je vous en dis pas plus.
Tu peux pas nous arrêter ça là.
Je vous en dis pas plus parce que je veux que vous l'écoutiez, OK? Fait que je veux pas vous donner toutes les punches.
Réussi.
Fait que ça prouve que le mystère, en fait que son enquête, ça dérange. Puis il y a quelqu'un qui veut que le mystère reste secret.
Mm-hmm.
Somme toute, la série est très bien écrite. Les acteurs sont excellents. Je vous conseille aussi d'écouter la saison 2 au complet. Par contre, Certains ont critiqué le dénouement de la dernière saison. Je vous avertis, plusieurs trouvent la fin décevante.
Ouais.
Ils ont signifié leur mécontentement face aux trous dans l'histoire, les plot holes. Ça, il y a beaucoup de monde qui ont dit « Ok, ça, ça se peut pas parce que telle affaire. » Fait que je suis d'accord, sauf que moi, je suis plus le genre à... Je vais pardonner certaines affaires quand je me dis « Ok, ça, ça se peut pas vraiment, mais c'est pas grave parce que je trippe dans l'histoire en ce moment. » Fait que je pardonne facilement. Peut-être que des gens, eux autres, ils stickent sur des petits points, puis ça, ça va peut-être les déranger un peu. Un autre critique, t'avais-tu quelque chose à rajouter?
Ben, non, j'allais dire qu'en podcast, moi, je trouve qu'on pardonne plus facilement. C'est vrai? Des fois, moi, j'écoute, je regarde des films, un mini détail va me gosser jusqu'à la fin, des fois, alors qu'en podcast, c'est comme une histoire, c'est comme un conte. Mm-hmm. Là. Donc, tu sais, un conte, des fois, des affaires impossibles, ça continue.
Oui, c'est ça. Ben, c'est comme ça que je me suis senti aussi. Il y a une autre critique aussi, c'est qu'on dit que certains détails importants ne sont révélés que dans le livre du même nom, OK? Parce que oui, Boris, il existe un livre qui vient ajouter à l'histoire, puis on revient sur des événements qui précèdent les événements du podcast. Bref, il faut lire le livre pour comprendre certains détails de l'histoire.
Oh boy, est-ce que le livre s'appelle Limetown?
Limetown aussi.
Et est-ce que c'est sorti en même temps que la série?
C'est sorti en même temps que la saison 2, je crois. Donc, faut que tu dépenses un peu d'argent pour comprendre. Tu sais, c'est comme une genèse du début de la première saison. Fait que si t'as pas lu le livre, il y a certaines choses qui vont t'échapper. Un autre truc qui moi, me chicote, je trouve qu'on a un peu recréé l'effet Lost. Je sais pas si tu as suivi cette populaire série télévisée américaine. Ouais. Bon, il y a des personnes dans un avion. L'avion crash sur une île. Puis ces personnes-là, ben, il faut qu'ils trouvent une façon de retourner chez eux, de survivre de cette île-là. Puis il y a certaines affaires qui se passent dans cette île-là qui est peut-être du surnaturel. Ouais. Okay, bon. Au départ, on flirte un peu avec la science-fiction. Okay, mais ça reste tout de même dans le domaine du plausible. Okay, même affaire pour Limetown. Sauf qu'après une couple de saisons de Lost, tu commences à trouver que...
Ça snap un moment.
À un moment donné, ça devient trop épique. Là. C'est rendu impossible. On tombe dans la réelle science-fiction. Puis j'avais un peu débarqué à ce moment-là.
Ouais,
puis la même chose que j'ai trouvé un peu de Limetown, ça commence assez soft. Puis c'est pas écrit gros, mais ça dégénère à un point. J'aime mieux quand c'est réaliste, moins étrange. Là. J'aime mieux quand c'est possible. Puis là, je trouve qu'ils ont donné à mener le paquet. Puis ils ont peut-être été trop loin. Peut-être une chose que j'aurais critiqué à propos de ce podcast-là. Mais somme toute, ça, c'est les points négatifs, mais ils sont pas assez forts pour discréditer l'œuvre en entier. Mm-hmm. Je vous conseille quand même le podcast. Allez écouter ça. Puis, tu sais, je veux juste vous avertir que oui, il y a certaines critiques qu'on peut y faire, mais ça vaut quand même la peine de l'écouter.
Et ça s'appelle Limetown.
Limetown.
Ça me donne vraiment envie de l'écouter, François.
Good.
En beauté, ce 13e épisode du Petit Guide du podcast avec juste des suggestions de notre crew. On dirait qu'on est revenu à ça cette semaine. Une petite pause d'interview. Ça va recommencer, mais on s'est dit que fallait une fois de temps en temps.
Oui, puis on en a écouté d'autres aussi. Là, on a bien hâte de vous en parler.
Ouais.
De quoi on vous parle la semaine prochaine?
Oui, on voulait parler de guerre en fils.
Oh my God, que c'est bon ça!
C'est sur ça que tu voulais me lancer?
Ah oui, absolument, c'est vrai de ça.
J'ai beaucoup aimé, mais aussi, c'est la semaine ou la journée de l'espace à cause de ce lancement.
Oui, alors on va parler aussi de 13 Minutes to the Moon.
Oui, de la BBC. Allez, on écoute ça la semaine prochaine.
Ben oui.
Allez, bonne semaine. Bien.